Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Salut les garçons.
Salut Charlie.
Moi, je suis très 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 contente. Aujourd'hui, on reçoit un grand écrivain haïtien.
Mais bien sûr, il s'agit de Lionel Trouillot.
Ah, oui. Attends, Alex, tu veux dire le romancier et poète haïtien de langue créole et française?
Tout à fait, Guillaume. Il est également journaliste et professeur de littérature française et créole à Port-au-Prince, figure-toi.
Donc vous le connaissez?
Mais bien évidemment. Doux parfum des temps à venir.
Rue des pas perdus.
Kanjaou, qui du reste, je pense, est l'un de ses chefs-d'œuvre.
Kanjaou, dans la culture populaire d'Haïti, ça signifie une grande fête.
Oui. C'est chapeau, les gars, vous m'impressionnez.
Yanavalou pour Charline.
Non, c'est Yanavalou pour Charlie. Parce que le Yanavalou, c'est une danse rituelle.
Oui, bien sûr, on le sait tous.
Donc, si vous savez tout sur lui, vous devez savoir qu'il a choisi de rester en Haïti malgré les difficultés. Est engagé contre la corruption dans son pays.
Assurément.
Quatre syllabes, assurément.
Je veux dire, selon lui, l'élection de Jovenel Moïse, le candidat adoubé par les instances internationales, c'est une mascarade.
Incontestablement.
Il a qualifié la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti d'armée d'occupation.
Bien évidemment. Et nous allons rester humbles devant un si grand homme. Charline, ne m'appelle pas capitaine.
Alors ça c'est drôle, c'est le titre de son dernier roman.
Merci, parce que je l'ai vraiment lu, moi, bande de petits malins. Je me suis pas arrêtée à sa page Wikipédia. Je vais prendre un café.
Merde, comment elle sait? On l'a peut-être trop fait. Oh non, je m'étonnerais.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique. Voici les trois actualités que nous allons incuber jusqu'à 18h car nous incubons énormément. En France, le chef de l'État apparaît de plus en plus seul. Un seul homme peut-il avoir en main le destin de tout un pays, qu'il soit grand ou petit, aux États-Unis ou en Haïti?
J'ai seul droit de vie ou de mort dans ce comté.
Et pourquoi on ne partirait pas en vacances en Haïti? Le tourisme de la glande est happé par sa voisine, la République dominicaine. Mais en Haïti, le tourisme se développe notamment autour de ses plages de rêve.
Mes enfants, moi je veux bien qu'on essaie, mais je vous garantis rien. Parce que le paysage, il a drôlement changé, hein? Drôlement, moi je vous le dis.
Les deuxièmes rencontres populaires du livre s'ouvrent ce soir à Saint-Denis, loin du salon du livre de Paris. Ces rencontres s'engagent auprès des habitants de la ville comme un levier d'émancipation.
T'es toujours en train de bouquiner, toi? Les livres, c'est de la branlette, mon pote.
Et lui, il lit énormément. très émancipé aussi. Alex Bizarrec.
Bonjour, chérie de Mananaker. Eh bien, pour cette bonne blague, je vais vous filer une belle équipe, figurez-vous. 17h20, celui qui est le seul à savoir exactement la définition du mot actualisique. Parce que nous, c'est pas grâce à la cohérence de ces chroniques qu'on va le déduire. C'est vous, Thomas VDB.
Thomas VDB, c'est moi. Oui. C'est vrai, je ne connais pas le sens du mot actualisique. Et pour cause, aujourd'hui, je vais faire une chronique qui raconte que je suis complètement perdu dans l'actu.
Très bien, 17h30, c'est peut-être ça l'actualisique d'ailleurs. 17h30, l'idole des prépubères gauchistes en manque d'émotion, le Kev Adams de l'altermondialiste vegan. C'est vous, Guillaume Meurice.
C'est beau ce que vous dites, Alex. Moi, j'ai fêté l'anniversaire de la 5ème République aujourd'hui avec des Français qui sont fiers d'être Français.
Si je pouvais changer de nationalité, je me tirerais.
Oui, pas tous.
Et enfin, 17h40, celle qui dans mon cœur est le gâteau sous la cerise. C'est vous, Clara Dupont-Mano.
Bonsoir, Alex.
Je vous ai quand même un petit peu perdu.
Un peu surprise.
De quoi on va parler?
On va parler du livre Splendeur de notre invité.
Et oui, car voici celui qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Lionel Trouillot.
Oui, c'est lui. Je l'ai reconnu. C'est lui.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Lionel Trouillot, on est très 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 heureux de vous avoir avec nous pendant une heure. Vous êtes poète, écrivain, on l'a dit, professeur de littérature, très engagé dans la résistance à la dictature et pour la reconstruction démocratique du pays. Et vous publiez donc ce roman qui s'appelle « Ne m'appelle pas capitaine » paru chez Actes Sud. Il s'agit de deux mondes qui ne se croisent jamais en Haïti. La bourgeoisie haïtienne et le reste du pays. Alors, vous les faites se rencontrer et dialoguer à travers Aude et le capitaine. Vous dites « une pimbèche et un vieux con ». C'est vraiment deux mondes qui ne se croisent jamais. Il y a un apartheid entre les deux.
Le mot, merci de m'accueillir, le mot apartheid est souvent utilisé en Haïti par les intellectuels haïtiens.
C'est vrai ?
Eux-mêmes, on vit une situation de quasi-apartheid. Le problème, c'est que nous avons fait sans doute la révolution la plus moderne des temps modernes, puisqu'en 1804, c'est une révolution réussie par les esclaves, qui est anticoloniale, anti-esclavagiste et anti-raciste. Donc c'est sans doute la plus avancée des trois révolutions qu'on a appelées les trois sœurs, en parlant de la révolution française et de la révolution américaine. Et puis, au lendemain de l'indépendance, les fils de colons, et si vous voulez, cette nouvelle bourgeoisie un peu bureaucratique qui se met en place, ils ont littéralement pris pour eux tous les bénéfices de la révolution et laissé le reste de la population dans des conditions d'existence inacceptables. Et donc cela se reproduit depuis 1806 au moins. Mmh. Et donc c'est vrai qu'il y a un écart incroyable entre les riches, qui à quelques 4 ou 5% ils possèdent le gros des richesses, et le reste de la population. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les écarts ont augmenté au fil des années. Mmh. C'est pour cela que il y a de temps en temps des mouvements de révolte, de mécontentement, parce que depuis d'ailleurs la présidence de Michel Martelly et la présidence de Jovenel Moïse, qui a un peu son héritier, les écarts ne font qu'augmenter. C'est pour ça qu'il y a vraiment du mécontentement de la part de la population.
Et Aude, elle fait partie de cette bourgeoisie et elle va rencontrer le capitaine qui, lui, habite le quartier de Morne-Dédé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce quartier-là, précisément ?
Parce que je le connais, parce que je travaille un peu avec mes yeux et mes oreilles. J'essaie de travailler au plus près du réel. Et le quartier dit Morne-Dédé, je l'ai connu il y a 30 ans, il y a 40 ans, et j'ai vu tout le processus de dégradation. Et Montagne Noire, je connais un peu moins.
vous avez été opposant à la dictature. C'est comme ça que vous avez connu ce quartier ? C'est parce que c'était un peu le QG
Non, le quartier du Morne-Dédé, j'y vivais. J'ai grandi dans un vaste quartier qui s'appelle Saint-Antoine. Et Morne-Dédé, c'est un peu une section, on pourrait dire, de ce quartier de Saint-Antoine. Donc j'ai vécu là, c'est mon enfance. Et puis c'est toutes les légendes du quartier, toute la mémoire du quartier que jeunes et vieux partageaient à l'époque. Donc j'ai travaillé dans ce livre avec... la plupart des anecdotes sont vraies, je n'invente pas d'anecdotes. Je change des noms, mais c'est vrai qu'il y a deux frères qui sont connus dans ce quartier, deux jeunes intellectuels brillants qui ont été vraiment assassinés par la dictature de Duvalier. Le commandant de la garde présidentielle a vraiment existé, il habitait dans le quartier, il passait demander aux jeunes « qu'est-ce que vous avez raconté sur moi aujourd'hui ?» Et si on ne trouvait pas quelque chose à lui dire, il se fâchait. Donc tout cela, c'est vraiment du réel.
Et donc Aude est une jeune étudiante issue de la bourgeoisie, elle va rencontrer, faire un reportage, un exercice, en allant rencontrer le capitaine à Morne-Dédé dans sa maison. Alors, il y a un moment où vous racontez un caillassage de voiture. Alors, il y a la version BFM, et il y a la vôtre. Je vais me permettre de la lire, même si je suis un peu intimidée de lire devant vous. « Ici, si tu parais plus riche que les autres, la colère se lève vite contre toi. Un bonjour auquel tu ne réponds pas, un regard, un mot, un faux air qu'on te trouve. Au moindre prétexte, toutes les rancœurs du monde te tombent dessus en avalanche. Et tu payes. L'injure, la pierre, vlan. Pour le père que je n'ai pas eu, vlan. Pour ce pain qui n'est pas quotidien, vlan. Pour cet homme, que dis-je, cette pourriture d'homme. Ce sac de sperme et de mensonges qui m'a laissé un peu de sa merde dans le ventre, vlan. Pour l'eau sale couleur d'immondice, pour l'irrespirable odeur de transpiration, de pissale, les latrines, les toits pourris, la promiscuité, les restes, la privation, les cautères, les escarres, le miasme, les effluves, toutes ces choses qui s'amalgament, font masse et qu'on appelle la misère. » Lionel Trouillot, comme Baudelaire ici, pour vous, il y a la poésie qui transforme la boue en or. Ça va, vous êtes à l'aise avec l'idée de rendre tout à fait sublime la laideur du monde ? Comment ça se passe ?
Oui. Oui. Il faut faire de belles laideurs, je dirais. Parce que moi, je pense à... J'ai été très influencé par les écrivains de la Beat Generation. Je pense à un livre comme Last Exit to Brooklyn. Mm-hmm. C'est une horreur incroyable. La violence, les conditions d'existence de ces gens. En même temps, il s'y dégage quelque chose de poétique. Pas dans la contemplation, pas pour dire « c'est beau leur misère ». Au contraire... Au contraire, je pense que c'est la puissance même de la charge esthétique de donner une valeur suggestive au texte pour dire « c'est inacceptable ouais. ». Il faut utiliser des procédés de beauté pour rendre l'inacceptable inacceptable.
Et vous y parvenez merveilleusement dans ce roman. Clara Dupont-Menand y reviendra tout à l'heure. On est sous le charme de ce roman qui s'appelle Ne m'appelle pas capitaine, Lionel Trouillot, paru chez Actes Sud. Donc il parle de cet apartheid, comme disent les intellectuels en Haïti, vous nous l'avez dit, entre la bourgeoisie haïtienne et puis le reste du pays, incarné aussi par ce quartier en désuétude, Morne Dédé. On va y revenir tout à l'heure, Lionel Trouillot. Car d'abord, par ici la musique, Walk This Way, Run DMC. Il y aura aussi bien sûr Thomas VDB, Guillaume Meurice, Alex, oui. Clara, du journal, des blagues, de la curiosité. Qui nous accompagne, l'écrivain haïtien, et pour l'encadrer.
Oui,
parce que là, on arrive à vous encadrer.
Pour l'adorer.
J'ai commencé par « en », et je me suis dit « mais comment va-t-elle terminer ?» Évidemment. Eh bien, il y a Guillaume Meurice, Thomas VDB et Clara Dupont-Monod.
Très bien. Lionel Trouillot, on va vous mettre un petit peu au fait de l'actualité française, même si je sais que vous suivez un peu quand même, non ?
Je suis un peu quand même, mais je n'aime pas trop.
Nous non plus, c'est pour ça qu'on postiche.
Cela fait un mois et demi que ma montre est cassée, donc je prenais l'heure sur...
Le journal, de presque 17h17.
C'est l'heure des médicaments.
C'est GG, bien sûr.
On commence par les titres.
Oui, la 5e République fête aujourd'hui ses 60 ans.
Ah, 60 ans, on comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron a absolument tenu à se la faire.
François Hollande propose de supprimer la fonction de Premier ministre.
Et oui, rappelons que François Hollande a eu Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, ceci expliquant cela.
Il y aura des brèves.
Oui, personne n'a proposé de supprimer les brèves.
François Hollande, si, aussi, quand
non.
même.
Non, 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 non. Des mal lus. On commence par une éphéméride.
Oui, c'est aujourd'hui la journée mondiale des animaux.
L'équivalent de la Saint-Valentin pour Brigitte Bardot.
Oui. Et d'ailleurs, ce matin, c'était le retour du Muppet Show.
Ah bon, dis donc.
Et oui, CNews proposait le premier numéro de cette nouvelle série avec l'interview de Gérard Collomb par Jean-Pierre Elkabbach.
Quand vous parlez de Madame Macron, vous dites Brigitte. Parce que vous avez des rapports qui étaient proches. La crise vous éloigne?
Ah non, on s'appelle toujours Brigitte et Gérard. Ouais. Elle m'appelle même, bon, dans les accès de tendresse, mon GG.
Ouais. Parce qu'elle nous appelle encore mon GG, c'est vrai.
Mais encore.
Mon GG, tu aurais pas dû partir. Regarde ce que tu fais à mon Emmanuel, non?
Non, non, on a connu ça.
Quand on va finir, vous allez téléphoner à celle qui vous appelle Gégé, ou alors à lui, ou à Edouard Philippe.
Peut-être qu'elle va m'appeler.
Vous nous le direz.
Ok.
Bien fait, bah, ça donne envie. Hein.
Ah, ça il n'est pas détendu, Gégé, depuis qu'il est à Lyon.
Il
est bien détendu. Allez, passons à Redouane Faïd. Hein, oui. On en sait plus sur sa cavale. Pour se cacher, il se dissimulait sous un voile intégral.
Et oui, c'est cohérent, lui qui toute sa vie a tenté de mettre les voiles.
Et oui.
On la garde.
Politique. Jean-Marie Le Pen, hospitalisé, ne se rendra pas à son procès pour provocation à la haine.
Le 8 octobre prochain, la Cour d'appel de Paris doit se prononcer sur le recours de Nicolas Sarkozy dans l'affaire de corruption et de trafic d'influence. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la veille, il va y avoir une petite crise d'appendicite. Ça va, les
international, oui. Lors d'une interview, Donald Trump a déclaré « Je ne bois pas, vous imaginez le désastre si ce n'était pas le cas.
» Il aurait fait plein de conneries, il aurait tripoté des meufs, ouais, couché avec des actrices porno, insulté des dirigeants africains, ou menacé de faire exploser la planète. Il était à jeun.
Roberto Saviano, oui. L'auteur de Gomorra, assure que la France est le pays le plus détesté en ce moment en Italie.
Et oui, et je vous assure qu'en Belgique, c'est exactement la même chose depuis le 10 juillet à 20h35, parce qu'il y avait des arrêts de jeu.
Oui, c'est vrai. Hein, sport.
Oui.
Le record de la plus grosse vague surfée par une femme vient d'être homologué, plus de 20 mètres de haut.
Oui, alors que, parce qu'en Indonésie, il y a plein de gens qui ont surfé sur des vagues bien plus hautes que ça, et pas de gens pour les homologuer. Oui.
Ce jeudi, dans le journal officiel, la commission d'enrichissement de la langue française a préconisé l'usage du terme infox plutôt que fake news.
Oui, et prochainement, elle préconisera de changer bullshit par prise de parole de Laurent Wauquiez.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, oui. Deux femelles ours slovènes ont été réintroduites dans la montagne.
Ça sent bon le plan à trois pour Jean Lassalle.
Oui, là. Allez, des brèves.
Et des brèves. Faites-vous l'image.
Oui, on a l'image, alors les brèves.
Le conjoint violent demande sa compagne en mariage au tribunal. Alors, j'imagine qu'il lui a promis de l'épouser pour le meilleur, vu qu'elle avait déjà eu le pire.
Petite dernière pour la route.
C'est chez nous en Belgique qu'un conducteur belge flashait à 914 km/h. En Belgique, même les radars sont bourrés. Et c'est ça.
L'écrivain Lionel Trouillot en notre compagnie. Écoutez, notre président paraît de plus en plus esselé, c'est ce que nous racontent tous les journaux aujourd'hui. Étant donné qu'il a tous les pouvoirs, hein, un homme seul, et un seul homme est-il capable d'influencer tout un pays? Par exemple, Trump, y parvient-il? Quid à l'heure du président haïtien? Est-ce que ça rend plus tragique une élection qui ressemble à une mascarade, comme dans ce que Donald Trump appelle les « whole shit countries », les pays de merde? Les « shit hole countries ».
Des siècles d'oppression, de népotisme, de clanisme qui portent tous un nom. Président fondateur, sous sa dictature, que martyr, souffrance, répression, et j'en passe. Et là où tous les pouvoirs politiques se sont couchés, un homme reste debout. C'est moi. Opposant, président.
J'étais sûre que ça vous ferait rire, cet extrait du film de Maman, Bienvenue au Gondwana. C'est universel, avec ici Rasmané ou Edra Ogo. Alors, les derniers présidents en date en Haïti, par exemple, Michel Martelly, qui était chanteur, hein, Sweet Mickey. On peut peut-être écouter un petit bout de Sweet Mickey en tapis pour bien se rendre compte. On attend que Macron nous chante une petite chanson. Aujourd'hui, si je ne me trompe, aujourd'hui donc c'est Jovenel Moïse, vendeur de bananes, on pourrait dire ça comme ça, Lionel Trouillot.
Il a été présenté, on l'appelle Nec Banana, créole haïtien, donc l'homme de la banane.
Ah ouais.
Au fait, il n'en a pas vendu beaucoup, véritablement. Mais...
Alors, ils nous apparaissent comme des guignols, des fantoches. Alors, nous, quand en France, on se moque du président Macron pour, par exemple, un selfie, une petite phrase, etc., est-ce que, comparativement, vous nous trouvez trop durs?
Écoutez, je ne veux pas me prononcer sur la réalité politique française, mais certainement, les Français ont le droit de se moquer de leur président, de l'aimer, de ne pas l'aimer, d'apprécier ce qu'il fait, de ne pas apprécier ce qu'il... ce qu'il fait, que ce soit en France ou en Haïti, heureusement, la liberté de parole et de penser, ça,
Elle est grande ça existe. Là-bas,
et les politiques méritent bien qu'on se moque d'eux de temps en temps. Quand on prend sur soi la responsabilité de vouloir diriger un pays, écoutez, quand les gens estiment que ça va mal, ils ont bien le droit de vous dire, camarade, t'as merdé.
Il y a de la place pour la satire politique en Haïti ?
Beaucoup.
Ouais, beaucoup.
Beaucoup.
Alors justement, j'ai une question qui me tient à cœur. Vous dites tout à l'heure, c'est la première république indépendante noire du monde. Vous citez parfois Aimé Césaire qui dit c'est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Donc on peut considérer que c'est un pays qui s'est politisé très tôt. Oui. Alors comment ça se fait qu'on s'étant politisé très tôt, on arrive à élire des présidents comme Michel Martelly ou Jovenel Moïse ?
Alors j'ai une boutade. Hein.
Allez-y.
Je dis que nous, les mauvais dirigeants que nous avons, nous ne les avons pas forcément élus.
Ah.
Ils nous ont souvent été imposés. Il faut dire que depuis quelques 30 ans, depuis au moins 20 ans en Haïti, il y a un processus électoral, une parodie de démocratie formelle qui est mise en place et qui parvient à satisfaire, je dirais, les représentants de la communauté internationale, mais qui ne témoigne pas forcément de la volonté du peuple haïtien. D'ailleurs,
leur intérêt de mettre des fantoches
Certainement. Ouais. Certainement parce que, écoutez, c'est un pays où on vient exercer le pouvoir de la communauté internationale. Moi, j'ai connu à un certain moment un monsieur qui travaillait pour les Nations Unies et qui faisait des rapports annuels disant qu'il y avait autant de violence en Haïti qu'en Irak. Ce qui n'était pas du tout le cas. On nous a imposé une mission pour la paix dans un pays qui n'est pas en guerre. Et pour revenir à ce monsieur, on a découvert par la suite, nous autres Haïtiens, que ces rapports annuels, il les faisait parce que comme il avait développé des relations sexuelles avec quelques femmes en Haïti et que ça se passait bien pour lui.
Ah, c'est ça les rapports annuels.
Il voulait absolument d'une mission sans famille parce que plus on dit qu'il y a du danger, donc c'est pas une mission avec famille. Donc sa femme restait là où c'est elle marrant, était ça. Et lui il s'amusait bien en Haïti en racontant qu'on était en train de s'entretuer.
Ça marche, hein, c'est possible. Il y a encore des missions
Non.
Je crois qu'il y a en Finlande, je crois qu'il y a un problème très dangereux en Finlande.
En Laponie. Voilà pour un aperçu actuel de la politique. Thomas VDB, vous, en politique française, vous êtes un peu perdu?
Ah, mais moi, je suis un petit peu perdu. Malgré tout, quel bonheur de se retrouver chaque semaine ici ensemble pour donner un grand coup de pied au cul de l'actu. Et voilà, ça fait du bien, même si là, je vous disais, je suis un petit peu perdu. Avec l'histoire de Gérard Collomb, je suis un peu perdu dans l'actu. Parce qu'en 3 jours sur Twitter, Gérard Collomb, il a été successivement en tête des sujets les plus discutés. Mais d'abord parce qu'il posait sa démission. Ensuite, parce que sa démission était refusée. Et après, parce que Macron acceptait finalement sa démission. Donc, 3 fois entêté en 3 jours. Alors, pour les moins connectés d'entre nous, je précise que être entêté, attention, c'est pas être accroché au sein de Madame Collomb, hein, pour se réconforter d'un conflit avec le président. Ah non, être entêté, évidemment, c'est faire le buzz sur Twitter. Et donc Macron, ça j'ai découvert, il a refusé la démission de Gérard Collomb. Alors j'ai pas compris, parce que normalement, si ton supérieur il refuse ta démission, mais que tu veux vraiment quitter ton boulot, la solution elle est pas de dire, ok c'est abusé, mais bon, tu chies sur le bureau du gars, le gars obligé de vire. Ah bah t'es là, bah oui, pas de lézard moi. Voilà, et c'est vrai que Gérard Collomb, lui, il a pas eu le droit de partir tout de suite, et ça c'est fou, parce que quand tu te dis Benalla à 26 ans, ce qu'il peut se permettre sans qu'on le dégage, et là un pauvre vieil homme bossu de 190 ans, il veut juste finir ses jours dans le confort de sa ville, mais on le lui refuse. Alors j'avais compris que Macron ne met pas les vieux, mais pas à ce point-là quand même. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du coup de toute l'histoire de Gérard Collomb, gros tohu-bohu, maxi charivari, hein, et donc moi c'est vrai que j'ai essayé de comprendre, mais c'est plus possible, là j'avoue, c'est plus possible. C'est un peu comme quand t'es sur Netflix, au 4e épisode d'une série dont t'as lâché l'histoire parce que tu t'es endormi, tu comprends plus rien. Là c'est pareil, sauf qu'on a même pas dormi, hein, voilà, l'histoire est super relou à suivre quand même, à chaque fois elle ne m'intéresse pas, à chaque fois, 100% des fois je suis lassé de l'intrigue, 100% des fois je lâche avant le dénouement pour une nouvelle affaire dont je ne connaîtrai pas la fin non plus d'ailleurs, parce que le nombre d'affaires dont on sait jamais vraiment comment elles se terminent, l'affaire Fillon, l'affaire des Panama Papers, où est-il celui qui peut se lever et dire oui, l'affaire Clickstream, je sais exactement comment ça se termine. Alors c'est vrai, on peut le dire, c'est plus vraiment un quinquennat, c'est une sorte de telenovela. Moi je sais plus où j'en suis, je sais le dernier épisode que j'ai vu, c'était avec Macron en photo avec des Antillais qui est arrivé dans l'histoire, j'ai pas compris comment ils étaient arrivés là-dedans. Bon, c'est vrai que j'ai remarqué, c'est souvent les mêmes ficelles narratives qui sont réutilisées à chaque épisode. Le prochain, je le vois venir, c'est Macron qui tient la joue de Redouane Faïd et qui lui dit « Les braquages, c'est terminé hein. !» Hein, tu m'as promis, tu vas pas décevoir ta maman. Hein. Mais je pense, pour tout vous dire, moi, je pense qu'en fait, en vrai, je rigole avec ça, mais le problème vient de nous beaucoup, je pense, de la façon qu'on a aujourd'hui de consommer de l'information toute la journée sur nos téléphones. Je dis, parce que quand j'étais petit, pour la politique, c'est vrai, on avait 7 sur 7, une fois par semaine, ça suffisait, ça résumait tout tranquillou. Les politiques, ils avaient le temps de préparer, voilà, c'est bien. Maintenant, la politique, c'est tous les jours, tout le temps, dès le matin, les matinales, bim! Et c'est Champs-Élysées, les matinales, maintenant. Tous les matins, avec Gérard Larcher, bonjour Gérard Larcher. Et les mecs, c'est une pression pas possible. Les politiques, ils se lèvent le matin, le premier truc qu'ils font, c'est quoi? Ben, se maquiller pour les plateaux, évidemment. Hein, les matinales, c'est filmé, donc les gars, ils sont méga tendus, parce qu'en plus, on leur met des cafés, du croissant pour faire sympa, mais ils savent que 2 heures après, tout le monde va s'étriper à leur sujet sur Internet, donc ils marchent sur une ligne. Les gars, ils veulent faire le buzz, mais pas trop. Juste le bon buzz qu'il faut, voilà, il faut défendre leur bilan. Hein, même si en vrai, on sait que le bilan, c'est ben, hier, j'ai fait 2 primes, un grand entretien, j'ai eu 1000 retweets et 5000 j'aime. Voilà, un beau bilan quand même. Alors c'est vrai, je me demande si c'est pas un peu de notre faute, moi, si finalement les politiques font n'importe quoi, parce qu'on est devenu complètement accro à l'actu. Ça, on voit bien tous, des fois en vacances, on est dans un endroit paradisiaque, et d'un seul coup, si on n'a pas la petite connexion, si on n'a pas la petite actu, bah, c'est la panique. Hein, et c'est comme ça, on regarde les palmiers, le ciel azur, en pensant au Huffington Post. Voilà, et on fait trempette dans l'eau de la piscine à 28 degrés, en se disant qu'on donnerait tout pour un peu l'actu. Hein, un petit encart du blog de Morandini, ah, ça ferait plaisir quand même, franchement. Ouais. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, les politiques, ils savent qu'on est toujours sur nos téléphones. Alors je me dis, finalement, ils se sentent obligés de faire les clowns. C'est pour nous divertir. C'est de l'animation, en fait. En fait, il faudrait supprimer leur indemnité, leur faire des cachets d'intermittents du spectacle. Voilà ce que je propose. Et nous, on doit se désintoxiquer de l'actu. Hein. C'est vrai que les journalistes politiques sont crevés. Charline est cuite. Alors, je dis ça aux politiques parce que, non, c'est vrai, les municipales, c'est dans 2 ans. Je dis ça aux politiques. La présidentielle, c'est dans 4 ans. Alors, lâchez-nous un peu. Bossez de votre côté. Nous, pendant ce temps-là, à la rigueur, on regarde la mire pendant 6 mois. Et dans 6 mois, vous revenez et vous nous racontez ce que vous avez fait. Merci.
Entièrement d'accord.
C'est sans compter les européennes.
Oui, en plus.
2019. Merci Thomas VDB. On peut vous revoir en radio filmée sur franceinter.fr. Et vous jouez au théâtre d'Aix-en-Provence le 11 octobre et le lendemain 12 octobre à l'avant-scène de Saint-Égrève.
Tout à fait, à côté de Grenoble. Oh, magnifique. Je crois qu'il convient de le préciser.
7h35 à Grenoble.
Je suis la pluie de mercure sur ta peau. Je suis ce canoë qui sur ton dos s'étire et se tord tout l'après-midi de manière complexe. Ton corps tressaille, contorsion cosmique et subtil réflexe. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Je suis ton totem, ton monstre sacré. Je suis ta tribu, l'agneau sacrifié. La jungle brise de prières étranges, mélodies complexes, provoque des ondulations cosmiques qui laissent perplexes. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je bouge dans ton vortex. Et je bouge dans ton vortex. Ce soir tous les anges sont voodoo, voodoo. L'astre mauve ne pique les yeux. J'épouse tous tes soubresauts périlleux. Jusqu'aux cieux. Et je plonge dans ton vortex.
Étienne Dao qui chante Vaudou, Vaudou. Et c'est sans doute un choix pas innocent de notre programmateur musical Djoubaka pour notre invité Lionel Trouillot qui publie « Ne m'appelle pas capitaine » paru chez Actes Sud, livre magnifique dont Clara Dupont-Menot va nous parler dans quelques instants. Avant cela, il y a deux choses, un petit sujet qu'on va traiter et Guillaume Meurice.
Ah, oui, bah j'ai fêté un anniversaire aujourd'hui, la 5e République a 60 ans. Clara nous racontait l'effervescence dans les rues hein, quand elle a été décrétée. La 5e République qui est née grâce à De Gaulle, à qui on doit la maison de la radio, si je le rappelle. On est ici grâce au général. Quand Éric Zemmour il vient faire l'apologie de Pétain ici, c'est grâce au général De Gaulle. Si aujourd'hui sur France Inter, je peux faire une imitation ratée du général De Gaulle, c'est grâce au général De Gaulle. Nicolas Canteloup, si tu nous écoutes, c'est pour toi bébé. Et si au second tour des élections présidentielles, on peut avoir le choix entre la syphilis et la peste bubonique, c'est grâce aussi au général De Gaulle. Merci mon général. Alors pour faire la fête à la 5e République, je suis allé voir le peuple de France, parce qu'on est quand même en démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour les banques. Pour le peuple, pardon, pour le peuple. Un peuple apaisé, je dirais doux, calme, serein, mesuré quant à l'état de la démocratie.
Il faudrait peut-être qu'il y ait un dictateur.
Ah ouais ?
Ben les dictateurs, au moins, ils tiennent le pays. Ah
ouais. Ben, moi, ça veut dire que vous en avez marre de la démocratie ?
Et à quoi ça sert la démocratie, puisque tout le peuple est dans la rue ? Mais c'est pas le peuple qui gouverne, il faut qu'il y ait une ligne conductrice. Et je trouve quand même qu'on a tué Saddam Hussein, il menait son pays.
Alors, ben, on pense ce qu'on veut de la moustache du gars, mais il menait son pays.
On est en train de perdre Lionel Trouillot, quand même.
Il vient de faire un tour sur lui-même, Lionel. Mais c'est vrai que ça, c'était 14e. 14e, moi, voilà, j'ai fait tranquille. Plusieurs petits marchés. Mais c'est vrai que la CGT Bagdad, bah, elle faisait pas trop la maline. Les merguez avaient goût de pétrole. Et ça a énervé les États-Unis, hein. D'ailleurs, faut pas déconner avec ça. Ils ont importé la démocratie à grands coups de bombes dans le museau et de torture. C'est vrai que si tu respectes pas les droits de l'homme, les ricains, ils te foutent des électrodes dans l'anus jusqu'à ce que tu sois un citoyen libre et épanoui. Merci pour ça. Alors, puisqu'on parle de dictature, continuons avec une citoyenne, donc il faudrait une dictature.
Ah, ça c'est vrai.
Ah bon ?
Ah oui, ça ferait pas de mal. Ça c'est vrai. Il y a longtemps que j'y pense à la dictature. Hein. Attendez, en Espagne, ils ont eu Franco, ils en sont pas morts.
Hein. Ah, il y en a quelques-uns qui en sont morts quand même.
Ah oui, bah chez nous aussi. Hein. Il y a toujours des trucs.
Chez nous aussi quoi ?
Bah chez nous aussi, on a eu des morts avant Franco, avant. Bah attendez, c'était pas. Voilà. Il y en a toujours eu.
Hein. C'est pas faux. Il y a toujours eu des morts. Hein. C'est pas la dictature qui a inventé le concept de mort. Hein. Franco, il a fait que faire une copie finalement de la mort. C'est un peu le Thomas Sisley de la dictature. Hein. Mais bon, voilà. Moi, j'étais pas là non plus pour faire l'apologie des dictatures. Hein. Pour ça, il y a Valeurs Actuelles. Chacun son créneau. Moi, je voulais faire la fête à la 5e République. Hein. Restons concentrés et retrouver, je dirais, un peu d'apaisement en parlant du chef de l'État actuel, garant de la sérénité des institutions et bien aimé de son peuple.
Il fait le con là. Je lui sonne la gueule, moi, je vous le dis. Hein. Je lui mets des coups de pompe dans la gueule.
À Macron ?
Oui, à Macron, ouais. Pourtant, j'ai mal à la patte, je lui mettrai des coups de pompe dans la gueule. Mais faut pas me parler de politique, parce que là, ça chie.
Ouais. Alors, on veut jamais de moi à Bayeux au Grand Prix des reporters de guerre, mais je vous signale que je prends pas mal de risques sur les marchés le matin. Un jour, si on me retrouve avec une botte de poireaux plantée dans le dos, faudra quand même pas s'étonner. Et même que c'est pas grave, j'ai pas peur, j'insiste, puisqu'on parle de guerre.
Bah, j'y dis franchement, s'il pouvait avoir une guerre, hein, pour changer tout, moi, je suis promis à faire la guerre. Hein. Moi, j'irais pas faire comme les immigrants, me sauver en courant. Moi, je ferais la guerre chez moi. Ah, mais alors, j'irais pas faire chier les autres.
Mais vous seriez de quel côté ?
Là, nous, là, hein ?
Vous seriez de quel côté ?
Bah, du côté, au cas du pognon.
Ah merde, bah, il sera du côté de Macron, finalement, j'ai l'impression. Hein. Moi, je vais être honnête aussi, j'ai pas osé lui dire. Ah, je lui ai dit, d'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur. Hein, une bonne guerre et hop, ça repart. Dassault Armement Akbar, puis je me suis carapaté. Bon, ma fête à la 5e République est un peu gâchée. Bon, d'ailleurs, on dit 5e République. Attends, faisons un peu de droit constitutionnel, comme ça, avec un autre citoyen. Comment ça marche, tout ça ?
Vous avez place du Palais Royal, la Chambre constitutionnelle, parce que la Chambre constitutionnelle, elle vote les lois.
Est-ce qu'on est sûr que la Chambre constitutionnelle vote les lois ?
Non, c'est à l'Assemblée.
Oui.
Hein, c'est à l'Assemblée.
Ça doit être plus à l'Assemblée.
Oui. C'est d'un côté, vous avez votre parti et l'opposition qui débattent et c'est au, ça se vote. Si les gens refusent, eh ben, ils sont vite fixés.
Ouais, on n'est pas nous, on n'est pas fixés. Hein. Par exemple, là, c'est vrai que la 5e République, c'est pas simple. Ça a été taillé sur mesure pour De Gaulle, et puis c'est vrai qu'ils essayent tous de rentrer dedans. Et ouais, ils essaient de rentrer dans le costume, mais ça marche pas. On dirait des morpions qui essayent le costume de Superman. Ça flotte, c'est ridicule. D'où l'idée qui émerge d'une 6e République qui soit plus collaborative, plus horizontale, plus parlementaire. Qu'est-ce qu'en pense ce monsieur ?
Pour quelle raison qu'on... Ça, c'est une idée socialiste. Donc, moi, j'en donne pas. Moi, je suis avec les Républicains. Je vois pas pourquoi Et on n'est pas comme un concours sportif au saut à la perche où on a envie de faire les 6 mètres. Vous comprenez?
Non, je pige rien du tout. Je ne vois pas le lien entre Renaud Lavillény et Macron, mis à part le fait que tous les deux, ils montent très très vite très haut et ils redescendent aussi vite. C'est vrai qu'on élit finalement les vainqueurs de la nouvelle star. Et voilà, qui tous se revendiquent du général de Gaulle, alors qu'ils sont surtout de l'ego en général.
Merci Guillaume Meurice. Lionel Trouillot, il faut que je vous fasse réagir. Donc les Français réclament une bonne dictature.
Ou une guerre.
Certains Français. Ouais. Je vous les envoie, comment je fais?
Vous qui avez été opposant,
il s'étrangle.
Ils ne connaissent pas la dictature, ce que ça peut être. C'est quand même intéressant, tristement intéressant, que les gens en arrivent là. Peut-être faudrait-il, au-delà du rire, à vous, vous avez inventé la démocratie, vous avez inventé la République, la modernité, peut-être faudrait-il...
Je ne me sens pas concerné, je suis belge, c'est la monarchie. Je suis là, vraiment, je vous laisse le dossier.
Mais là, je parlais en général de l'Occident chrétien blanc capitaliste, donc vous êtes dedans malgré vous.
Allez, bim.
Monarchie parlementaire, donc
effectivement. Faudrait peut-être se demander, est-ce que ça a encore du sens? On vote des politiciens, on vote des gens de gauche qui font des politiques de droite. On sait plus ce que c'est que la droite, ce que c'est que la gauche. On parle plus d'inégalité. On sait que de toute manière, la haute finance, le capital vont triompher. On a la haine du pauvre. On se permet de dire n'importe quoi aux gens à partir du moment où ils sont pauvres. On entre en politique pour dire moi, je. Alors, est-ce que ça a encore du sens? Vous avez emmerdé l'humanité avec cette histoire de démocratie formelle. Maintenant, vous avez des comptes à nous rendre.
C'est pas le système
idéal. Est-ce que ça a encore du sens, cette histoire-là?
Rien de beau, la royauté, quand même.
Lionel Trouillot. Alors, on va partir, on va vous suivre en Haïti, Lionel, parce que... Pourquoi on partirait pas en vacances, là-bas, d'ailleurs? Est-ce que c'est un shit hole country, comme dirait Donald Trump? Malgré tout, ça fait partie... Enfin, Donald Trump a inclus Haïti dedans.
On y est très vite,
Alors, malgré tous les cataclysmes, il existe un tourisme embryonnaire en Haïti, en tout cas qui essaye de se relever, un patrimoine historique, ça c'est sûr, des plages sublimes, et puis il y a aussi sans doute quelques bourgeois blancs curieux de savoir si la misère est moins pénible au soleil.
Ce doit être une ville passionnante. Ces vieilles maisons de bois, ces ruelles sordides, ou dans des tripots affreusement malfamés les indigènes, ces livrets dont on joue du trombone jusqu'au délire. Ce doit être hallucinant, prodigieux. Non, hein, quoi, hein, dites, non, hein, quoi, non.
C'est absolument indescriptible de démence géniale.
Oh, cette poésie de la misère, scandée par Claude Pieplu dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Alors, Lionel Trouillot, Haïti, c'est aussi une île magnifique, avec des très belles plages, un patrimoine historique. Est-ce que aujourd'hui, concrètement, avec la politique qui est menée pour le tourisme, est-ce que concrètement, on pourrait aller en vacances en Haïti aujourd'hui?
Non, c'est un bien grand mot, la politique menée pour le tourisme. Je n'aime pas dire du mal de... mes compatriotes, ceux qui nous dirigent, mais je ne sais pas s'ils mènent une politique dans un quelconque domaine. Donc,
Des mesurettes, une mesurette.
Je ne parlerai pas ça, mais je pense que c'est un pays accueillant. C'est un pays accueillant, c'est un pays vivant, c'est un pays où il y a beaucoup, il y a un fonds culturel énorme.
C'est un des plus lettrés, un des plus culturellement développés. Incroyable l'inspiration qu'il y a à Haïti.
Étrangement, c'est un pays qui peut produire à lui seul autant de livres que l'Afrique. Noirs francophones réunis. C'est...
Ouais, dites du mal des Africains, tranquillement.
Non, pas du tout.
Par exemple,
je parlais en termes de quantité.
Lionel Trouillot, quand vous voulez prendre un peu large, que vous, par exemple, vous partez un week-end, vous allez en dehors de Port-au-Prince, il y a un endroit, des plages, des...
À Las Vegas, on connaît plein de gens.
Il y a des endroits, il y a de belles plages, comme vous le disiez, il y a des hôtels. Maintenant, il y a toute une campagne qui a été menée aussi contre Haïti. On a fait croire que c'est un pays de violence. Il n'y a pas plus de violence à Port-au-Prince qu'à Kingston, en Jamaïque, ou qu'à Santo Domingo, à côté d'Haïti. Il y a une légende qui a voulu caricaturer un peu ce pays, pays de malheur, pays de violence. Et donc, c'est un travail qui a été fait de manière très réfléchi, ça commence dans les années 20 du siècle dernier, au moment où Haïti était occupé par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique avaient construit dans les médias de l'époque, dans le monde de la presse de l'époque, même dans le monde littéraire de l'époque, une légende anti-Haïti. Et c'est intéressant, il y avait un Américain qui avait publié en 1933 un livre sur Haïti qu'il appelait Black Baghdad. 1933. Ouais,
déjà. Bon, alors, ça pourrait être, s'il y avait une politique véritable qui était menée, si les politiques faisaient leur travail, il y aurait un levier pour aider à reconstruire le pays.
Tout à fait.
Mais est-ce qu'on a envie d'y voir des clubs med en bordure de mer parce que c'est ça, évidemment, la question.
Ça existe chez les voisins.
Ben oui, c'est ça. Il y a plus de cachets.
Il y a aussi cela. Ouais. Parce que le tourisme, ça peut être dangereux aussi. Ouais. On a vu en Haïti, à l'époque de la dictature de Jean-Claude Duvalier, il y avait du tourisme. Mais il y avait aussi des vieillards qui arrivaient, qui venaient mener leurs opérations de tourisme sexuel et tourisme, d'accord, mais il faut quand même protéger les populations.
Lionel Trouillot avec nous, et abordons donc votre roman « Ne m'appelle pas capitaine » paru chez Actes Sud avec Clara Dupont-Monod.
Oui, parce que c'est notre actualité du jour, Charline. C'est ce magnifique texte donc de Lionel Trouillot, « Ne m'appelle pas capitaine ». Alors, Lionel Trouillot, pardon, mais il se trouve que si, que Charline et moi, on vous appellerait bien capitaine, voire colonel, si je peux me permettre. Colonel des lettres, tant votre livre brille comme une médaille au fond d'un étang boueux qu'est notre époque. Mais ce livre, c'est d'abord une voix. Alors cette voix, elle n'avance pas seule, elle s'enroule autour d'une autre voix, un peu comme deux jambes qui s'en mêlent pour un pas de tango où on recule un peu méfiant avant de se rapprocher un peu confiant. C'est un pas de deux, un pas de jeu. D'ailleurs, chacune des voix dit jeu. Et la première, c'est celle de Aude, apprentie journaliste et surtout qui est née du bon côté de la barrière haïtienne. Famille prospère, ribambelle de cousins, robe de soie. Je cite, on pouvait faire ma somme, me dresser comme une liste. Une famille riche, des idées, des sentiments de riche, une petite voiture de fille de riche, cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans, dont je devais changer, disait mon cousin Geoffrey, parce qu'elle avait 2 ans et manquait de puissance. Voilà un peu la vie de Aude qui est résumée avec cette liste. C'est à bord de cette voiture, justement, qu'elle se rend dans un quartier très pauvre de Port-au-Prince parce que son école de journalisme lui demande de rendre un travail sur ce quartier. Et c'est là où elle va tomber sur cette fameuse deuxième voix. C'est celle d'un vieil homme enfermé dans une grande maison qui parle tout seul, qui raconte à demi-mot tout un pan de l'histoire d'Haïti, notamment sous la dictature, et qui semble se souvenir d'une femme qu'il a aimée autrefois et qu'il hait aujourd'hui. Alors, notre Aude, elle fait du café, elle s'assied face au vieil homme et elle écoute. Et à partir de là, se joue l'éveil d'une conscience. Votre livre, c'est ça en fait, l'éveil d'une conscience. Alors c'est un thème littéraire magnifique, l'éveil d'une conscience, que la littérature a mis à plusieurs sauces. Mais vous avez Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Valjean qui était du côté du mal, qui était un bandit, qui bascule du côté du bien. Et dans ce cas-là, l'éveil de la conscience s'approche de la naissance d'une morale. Vous avez Le Chevalier Desgrieux dans Manon Lescaut, qui est un magnifique roman du XVIIIe siècle, signé de l'abbé Prévost. Desgrieux, jeune homme de très bonne famille, tombe fou amoureux d'une courtisane qui s'appelle Manon. Et pour vivre son amour, il s'oppose à sa famille. En fait, il se pose en s'opposant, finalement. C'est l'individu qui se distingue du groupe et c'est le début de la conscience de soi, exactement comme Aude, qui n'avait jamais dit « je », qui avait toujours dit « nous », « nous », en fait, lié à ce collectif qu'est cette famille un peu friquée, ce cercle de privilégiés. Et brusquement, elle apprend à dire « je ». Et cette conscience de soi qui s'accompagne, pour moi le plus important, de l'éveil d'une conscience sociale. C'est la part la plus importante de sa métamorphose. Quand Aude est perdue dans ce quartier pauvre et qu'elle tourne et qu'elle demande son chemin à des jeunes désœuvrés dans la rue, elle est bien à l'abri de la voiture. Mais quand il faut qu'elle leur parle, elle ne trouve pas le ton juste. Pourquoi ? Parce que, je cite, « c'était la première fois que je parlais à des personnes d'un milieu différent du mien, sans être en position de chef ». Eh ben oui, parce que jusqu'à présent, les personnes différentes de son milieu, c'était les domestiques. Et voilà que subitement, pour la première fois, Aude s'inquiète de la façon dont seront reçues ses paroles par le destinataire. Et en fait, Lionel Trouillot, c'est comme si vous aviez fait Germinal de Zola à l'envers. C'est-à-dire que là, ce ne sont pas des pauvres qui se révoltent, mais ce sont des riches, en fait, qui prennent conscience de leurs conditions et qui décide d'agir. Et c'est ce que fait Aude, qui pourrait finalement conclure face au vieux monsieur, eh bien, mission accomplie, mon capitaine. Je vous redonne les références, « Ne m'appelle pas capitaine » de Lionel Trouillot est paru chez Actes Sud.
Merci Clara Dupont-Monod. Et toujours en parlant Aude, qui prend conscience de tout cela, et qui est donc issue de la bourgeoisie, de cette apartheid dont on parlait, hein, entre elle et le reste d'Haïti, ce passage où elle dit « à part quelques branchages un peu trop éloignés de l'ensemble, ayant donné naissance à deux ou trois brunes pêche, il y avait 200 ans, que de père en fils, de mère en fille, de blancs pauvres importés d'Allemagne ou d'Argentine en mariage entre cousins et cousines, nous avions fait le choix de ne pas être noirs. Donc il y a la volonté et le calcul politique d'avoir la peau la plus blanche possible pour se distinguer.
Très certainement. Ouais, ouais. L'existence de ce qu'on appelle les mulâtres en Haïti, c'est un refus du métissage. Ouais. Parce que s'ils n'avaient pas pratiqué l'endogamie, ils se seraient fondus dans l'ensemble de la population. Or, ce sont des gens qui s'acharnent à se reproduire à l'identique depuis 250 ans. Comme disait Jean Métellus, parlant d'une grande famille haïtienne, l'écrivain haïtien Jean Métellus, qui est décédé il y a quelques années, il disait « Trouillot, explique-moi pourquoi telle famille refuse d'être noire depuis 200 ans. » Et c'est un peu ça la réalité haïtienne.
Et merci Clara. L'éveil des consciences dont on parle, il se fait notamment avec cette rencontre à Saint-Denis, les rencontres populaires du livre, qui est plus une sorte de foire du livre où les gens sont associés plutôt que de salon du livre de Paris, par exemple. Et donc vous qui animez des ateliers de lecture, d'écriture aussi, et qui dans les années 90, vous avez animé une revue littéraire pour promouvoir la littérature et la lecture, est-ce que populariser le livre, est-ce que par exemple en Haïti, ce serait passé par le créole? Ou comment est-ce qu'on fait pour populariser le livre et chez nous et chez vous?
Bon, déjà, il faut que le livre soit à des prix accessibles pour les gens qui n'ont pas l'argent. Moi, et j'ai vécu une anecdote. Trois de mes étudiants, ils étaient trois, ils se sont mis... Il y avait une signature aux ventes et ils sont arrivés à toi. Ils ont mis l'argent, moi j'en mets tant, toi tu en mets tant pour acheter un livre à toi. Chez nous, les gens lisent quand ils peuvent se procurer les livres. Mais ce livre-là, dans sa version Actes Sud, quand il arrive en Haïti, il va coûter $24 américains. Donc seuls quelques bourgeois pourront l'acheter à ce prix-là. Mais si j'en fais une édition haïtienne, et mes étudiants vont l'acheter...
François Dyssen va vous faire un procès.
Je pense que
Attention.
La première chose à faire, si on veut populariser le livre, c'est le rendre accessible aux petites bourses.
Déjà.
C'est déjà la première chose, et puis il faut aller vers les gens.
C'est pour ça que lors de ces rencontres populaires du livre qui s'ouvrent ce soir à Saint-Denis, il y a par exemple un troc de livres où on peut se les échanger. Voilà pour ce sujet. Lionel Trouillot, il y a un acteur qui sommeille en vous, on est très, 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 très certainement.
Première,
on vous l'apprend. Hein,
parce qu'en fin d'émission, on propose un rôle à l'invité pour jouer avec nous dans un sketch. Et vous, je vous ai réservé pas n'importe quel rôle, celui de François Hollande. Parce que grosse responsabilité. Le livre un président ne devrait pas dire ça devrait être adapté au théâtre. Charline est directrice de théâtre. Vous êtes François Hollande avec le manuscrit. Et puis Guillaume, Thomas et moi, on est des metteurs en scène qui pourraient peut-être mettre en scène cet ouvrage.
Bon, monsieur Hollande, pour la mise en scène de votre spectacle, je vous propose plusieurs candidats.
Non, je ne suis pas candidat pour 2022.
D'accord, bah, c'est pas ce que je vous ai demandé. Hein.
Ah pardon, c'est un réflexe. Comme c'est la seule question qu'on me pose en ce moment.
Oui, alors on va faire entrer le premier candidat, monsieur Hossein, bonjour.
Bonjour, c'est Robert Hossein.
Alors, dites-nous comment vous voyez la mise en scène de la pièce « Un président ne devrait pas dire ça ».
Bon, alors on va faire un truc grandiose. Hein.
Bonne idée.
Je veux 200 figurants sur scène, des chorégraphies incroyables, un décor gigantesque, des cascadeurs, de la fumée, des lumières, un orchestre symphonique...
Ah oui, mais non, je suis de gauche à la base.
Oui, mais il faut voir grand, monsieur le président. Pour la scène du scooter, vous serez debout sur un cheval et vous sauterez sur le balcon de Julie Gaillet avec une rose à la bouche.
Mais attendez, c'est risqué quand même, hein, parce qu'il risquerait de se casser les dents quand même.
Oui, et je ne veux pas finir sans dents.
Oui, alors on va voir le prochain candidat. Bonjour Yann Fabre.
Oui, bonjour, je suis très content de faire une mise en espace de la proposition littéraire de monsieur.
Ah oui, ça me plaît bien. Vous n'êtes pas dans l'opulence, vous?
Ah non, moi je suis plutôt dans un style minimaliste.
Parfait. Pour les costumes?
Ah oui, non, pas de costumes. Je préfère les acteurs nus.
Ah oui, même Michel Sapin?
Surtout. Et j'ai imaginé pour la scène que Macron, il quitte Bercy.
Ah oui, très bien.
Comme il est parti sur l'eau, en vous humiliant, j'imaginais un acteur qui urine sur un autre.
Ça, on verra.
Et le final?
Le final, je veux quelque chose qui symbolise votre quinquennat.
Un feu d'artifice?
Non, je pensais plutôt à un fist-fucking de Marianne.
Bon, très bien. Alors, le dernier candidat. Bonjour, monsieur Ruquier.
Oui, bonjour.
Vous, comment voyez-vous cette pièce?
Oh, bah, avec mes lunettes.
Hein? Quoi?
Non, monsieur le président, c'est l'esprit des grosses têtes. C'est...
Ah, les grosses têtes, je connais bien, j'ai travaillé avec Valls.
Alors, dites-nous, est-ce que vous avez déjà pensé à un casting pour la pièce?
Moi, pour mon rôle, j'imaginais Gérard Lanvin.
Oh ben non, j'ai pensé Bernard Ménès plutôt. Et dans celui de Valérie Trierweiler, Isabelle Mergaud.
Oui, voilà, oui, alors on va réfléchir. Hein. Alors, pouvez nous raconter comment vous imaginez une scène de la pièce?
Bah écoutez, c'est très simple. Il faudrait que François Hollande soit en lit et la Valérie rentre. Julie se casse le placard, il trouve Ségolène et la rue Marie dit je m'en suis.
On va réfléchir. Alors, monsieur Hollande.
Oui. Oh là là. Un président ne devrait vraiment pas vivre ça.
Merci beaucoup Lionel Trouillot. On était vraiment heureux de passer cette heure avec vous. C'est toujours passionnant de vous écouter et surtout passionnant et délicieux de vous lire. Lionel Trouillot, Ne m'appelle pas capitaine, roman paru chez Actes Sud, chaleureusement recommandé. Merci beaucoup les amis et on va laisser le mot de la fin à la langue française.
Il fait le con là. Je lui sonne la gueule, moi, je vous le dis. Hein. Faut pas me parler de politique parce que là, ça chie.